Je ne sais pas ce que vous savez d'Auguste Comte, mais je ne crois pas me tromper en disant que dans la langue française aujourd'hui, positiviste est à peu près synonyme de scientiste. Or, s'il est vrai que Comte, qui était ancien élève de Polytechnique, a toujours accordé une place centrale à la science, il n'a jamais été scientiste. C'est une grande injustice à son égard, et c'est plus encore une amnésie singulière de nos contemporains. Jusqu'en 1940, si vous voulez, on savait que Comte était un philosophe des sciences, mais il allait également de soi que le positivisme était une politique, qu'il y avait une politique positive à côté d'une philosophie des sciences. Je ne veux pas développer ce point, mais je vous rappellerai seulement que deux des grands maîtres à penser, en quelque sorte, de l'entre-deux-guerres, qui étaient à gauche Alain et à droite Maurras, se réclamaient tous deux d'Auguste Comte pour sa philosophie politique. C'est quelque chose qui a soudain disparu, pour des raisons qu'on peut expliquer, mais pas la peine de les développer. Et c'est cette articulation de la philosophie des sciences et de la philosophie politique que je voudrais essayer de vous présenter ce soir. Il y a bien des aspects. Je ne vais donc pas vous parler directement de la politique positive, hein, il s'agit de la science. La science, dit Comte, est la base, c'est une citation que vous entendrez un peu plus tard, la base spirituelle de l'ordre social. Pour essayer de développer cette idée, je procéderai en deux temps. J'essaierai tout d'abord de commenter cette phrase en partant des deux bouts, en partant d'une part de la science, d'autre part de la société. S'il me reste ensuite du temps, j'essaierai de vous introduire dans un univers assez déconcertant qui est celui du second Comte, que vous pourrez découvrir plus à loisir dans le système de politique positive. C'est le Comte fondateur d'une religion en France. Ça n'a pas marché. Le texte que vous entendrez vous aidera peut-être à comprendre cela. Ceci étant, même sous des dehors parfois parfaitement ridicules, il y a peut-être quelques idées à retenir, dont celles que j'essaierai de vous présenter. Tout d'abord, sous sa forme la plus simple, la science comme base spirituelle de l'ordre social, et partant de la science, pourquoi s'intéresser à la science? Pourquoi vouloir développer la connaissance scientifique? Il y a trois réponses possibles, celle qui nous intéresse étant la dernière. La première, qui est traditionnelle dans l'histoire de la philosophie en particulier, dit « mais il y a en l'homme un désir naturel de la vérité, et c'est ce désir qui le pousse à développer ses connaissances. L'amour de la vérité est inné, et il n'y a pas besoin d'en demander davantage pour expliquer notre intérêt pour la science. » C'est une réponse que Comte n'admet pas.
L'esprit n'est pas destiné à régner, mais à servir. Quand il croit dominer, il rentre au service de la personnalité, au lieu de seconder la sociabilité, sans qu'il puisse nullement se dispenser d'assister une passion quelconque. En effet, le commandement réel exige, par-dessus tout, de la force, et la raison n'a jamais que de la lumière. Il faut que l'impulsion lui vienne d'ailleurs. Quelque réel que soit, sans doute, la satisfaction attachée à la seule découverte de la vérité, elle n'a jamais assez d'intensité pour diriger la conduite habituelle. L'impulsion d'une passion quelconque est même indispensable à notre chétive intelligence pour déterminer et soutenir presque tous ses efforts. Si cette inspiration émane d'une affection bienveillante, on la remarque comme étant à la fois plus rare et plus estimée. Sa vulgarité empêche, au contraire, de la distinguer quand elle est due au motif personnel de l'humain, d'avoir, d'ambition ou de cupidité. Telle est au fond la seule différence entre eux. Lors même que l'impulsion mentale résulterait, en effet, d'une sorte de passion exceptionnelle pour la pure vérité, sans aucun mélange d'orgueil ou de vanité, cet exercice idéal, dégagé de toute destination sociale, ne cesserait pas d'être profondément égoïste.
Quelques mots de commentaire. Tout d'abord, ceci appartient à la seconde philosophie de Comte. Alors, peut-être quelques données biographiques. Comte est né en 1798 à Montpellier et est mort relativement jeune en 1857 à Paris. L'œuvre de Comte comprend essentiellement deux parties. Le cours de philosophie positive, 6 volumes, Comte ne faisait pas dans la demi-mesure, 6 volumes, 1830-1842. Et une deuxième partie, le système de politique positive, une deuxième philosophie, 1852-1854, le système de politique positive porte en sous-titre ou traité de sociologie instituant la religion de l'humanité. Je vous renvoie au texte de Sébine pour le succès de l'idée. Entre les deux, il y a en 1845 ce que Comte a appelé l'année sans pareil, c'est-à-dire un amour platonique avec Clotilde de Vaux, qui lui a fait découvrir le sentiment. Donc, la deuxième philosophie de Comte, c'est la prépondérance continue du sentiment, ou du cœur sur l'esprit, d'où l'esprit n'est pas destiné à régner et à servir. Cette prépondérance du sentiment est prise très au sérieux, vous la retrouverez dans le dernier texte qui sera lu. L'esprit n'est pas destiné à régner mais à servir, et quand il croit dominer, il rentre au service de la personnalité. Alors ça c'est le jargon conscient, la personnalité c'est l'égoïsme. Au lieu de seconder la sociabilité qui est l'altruisme, qui est bon bien entendu. La raison qui est donnée me paraît assez forte. Le commandement réel exige par-dessus tout de la force. La raison n'a jamais que des lumières. C'est très exact. Donc, l'impulsion d'une passion quelconque est indispensable à notre chétive intelligence. Le qualificatif qui accompagne régulièrement intelligence chez Comte, c'est chétif. L'intelligence est faible. Elle ne se développe pas spontanément, elle a besoin d'appui, d'impulsions étrangères. Je retiendrai encore juste une idée. Ce que vous dit Comte, c'est ceci. Que cette passion quelconque soit vulgaire, besoin de gloire, d'ambition, de cupidité, etc., ou bien à supposer qu'elle résulte d'une passion exceptionnelle pour la pure vérité. Même dans ce cas-là, vous dit Comte, ce n'est jamais que de l'égoïsme. Alors, c'est un thème qui n'est nullement conscient, c'est-à-dire que les moralistes ont régulièrement condamné la vaine curiosité. Comte reprend cela. Donc, pourquoi chercher la science? Ce genre de motif n'est pas totalement exclu. Il y a chez l'homme un désir de connaître la vérité, mais enfin, il ne faut surtout pas le surestimer. Voilà. Alors, il y a une deuxième raison de cultiver la science que je ne développerai pas. La science est la base de l'action de l'homme sur la nature. C'est ce qu'on nous chante sur tous les toits. La recherche scientifique, très bien, mais combien de brevets avez-vous déposés? Alors, la troisième raison, qui est très originale à mon avis chez Comte, la science, elle demande à être cultivée parce qu'elle est la base rationnelle de l'ordre social.
La construction d'un système général des connaissances humaines doit être regardée comme le dernier acte et le but final de la grande révolution commencée par Bacon, par Descartes ou par Galilée. Elle est indispensable comme la seule base spirituelle possible du nouvel état social vers lequel l'espèce humaine fortement, car ce n'est que par sa force d'ensemble qu'une doctrine quelconque peut parvenir à diriger la société. Tant que les conceptions positives resteront isolées en fait, tant qu'elles ne se présenteront pas comme les diverses parties d'un système unique et complet, elles pourront conserver une très grande importance dans les cas particuliers. Elles pourront même lutter avec beaucoup d'avantages contre l'autorité politique de la théologie et de la métaphysique, mais elles ne sauraient le remplacer dans la direction suprême de l'ordre social.
Alors, il est dit expressément, elle est la seule base spirituelle possible d'un nouvel état social vers lequel l'espèce humaine tend si fortement aujourd'hui. La fin dit quelque chose qui est assez important. Les sciences pourront lutter avec beaucoup d'avantages contre l'autorité politique de la théologie et de la métaphysique, mais elles ne sauraient les remplacer dans la direction suprême de l'ordre social. Ce qui apparaît ici, c'est une rivalité consciente chez Auguste Comte entre la pensée positive ou scientifique, pour lui c'est synonyme, et la pensée théologique, je laisse de côté la métaphysique. L'idée de Comte, c'est que la force de la théologie, surtout dans la fin de l'histoire de l'humanité, grosso modo depuis les temps modernes, depuis que la science s'est développée, grosso modo depuis le XVIIe siècle, la théologie n'est plus un mode de connaissance reconnu comme valable. Mais il y a toujours des théologiens. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui assurent l'ordre social. Le positivisme a pour ambition de les remplacer dans cette tâche.
Quelle critique il adresse alors à la religion puisqu'il repromeut une autre religion ?
J'essaierai de répondre brièvement. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais quelque chose qui est remarquable chez Comte, c'est qu'il a vu l'importance sociale de la religion. Ce qu'on n'est pas du tout habitué à faire, Comte dissocie totalement religion et croyance en Dieu, théologie. La religion, c'est le ciment du lien social, grosso modo.
Parce qu'est-ce qu'il reprochait à la religion que je
Alors,
venais de catholique
attention,
à l'époque ?
Les reproches de Comte ne vont pas à la religion, ils vont à la pensée théologique. Comte a toujours manifesté une admiration profonde pour le Moyen-Âge, ça c'est le romantique, etc., et pour le catholicisme. On l'a accusé d'avoir fondé un christianisme sans le Christ. La religion positive, c'est le catholicisme sans le Christ. À quoi quelqu'un a répondu, ce qui n'est pas sot, c'est le catholicisme plus la science. C'est pas l'aspect, ce qu'on retire, c'est ce qu'on met à la place. Par contre, histoire de se détendre un peu, dans les livres de prière de la religion positiviste, eh bien, on remplaçait Dieu par l'humanité et le tour était joué. Là, ça répond un peu, ouais. D'accord. Donc, vous voyez bien, la science tire sa valeur de ce qu'elle permet de faire dans la société. Ce n'est pas l'amour de la vérité, ce n'est pas la technologie, c'est pas que la technologie soit méprisable, mais on n'a pas besoin de développer cette idée. Il y a une autre fonction de la science qui est, je ne dirais pas totalement méconnue, mais qui quand même est largement sous-estimée. Notez en passant, c'est très lié à l'idée qu'on se fait des buts de l'instruction. L'enseignement de la Troisième République devait beaucoup à Comte. Pourquoi enseigner la biologie à quelqu'un qui veut faire des lettres ? Il veut faire des lettres, ça veut dire il veut se destiner à être professeur, interprète, etc. Professionnel. Mais la biologie, tout le monde a le droit, le devoir de comprendre un peu comment fonctionne un être vivant. Point, c'est tout. Et c'est utile pour la vie en société. C'est pas uniquement la curiosité intellectuelle. Ça, c'était la première approche. La deuxième approche, la science est base spirituelle de l'ordre social, partons de l'autre bout, vous voyez, la société. L'idée de Comte, que je ne développerai pas, c'est il y a un ordre social, il n'y a pas de société sans ordre. Alors, l'anarchie peut sembler dire le contraire, Comte a condamné l'anarchie, on a fait quelques échos dans les textes qui suivent, je ne vais pas justifier cela, sinon pour vous dire que l'ordre dont parle Comte, ce n'est pas nécessairement l'ordre établi, c'est on ne peut pas vivre dans le désordre. Il n'y a pas de société sans ordre. Quel ordre ? C'est une autre affaire, mais il faut un ordre dans la vie en société. Ce que je peux également dire, c'est que la pensée politique de Comte a deux sources, et ça se retrouve dans sa postérité également. Comte se présentait comme le successeur de Condorcet, avec deux réserves, les mathématiques sociales, Comte en a dit pique-pan, et précisément le jugement sur le Moyen-Âge. Condorcet, un homme des Lumières, condamnait les ténèbres. Et Auguste Comte a dit, c'est une vision parfaitement injuste. Hein, il s'est parfaitement trompé là-dessus, il n'a pas su rendre justice à ses prédécesseurs. Alors ça, c'est une des sources, le progrès, mais il y a une autre source qui explique le goût de l'ordre chez Comte, c'est ce qu'on a appelé les penseurs contre-révolutionnaires, de Maistre, Joseph de Maistre, le traité du pape, et Bonal. C'est un peu ça qu'on trouve dans son apologie de l'ordre. Il prétendait concilier l'ordre et le progrès par la formule « le progrès, c'est le développement de l'ordre ». Cette formule « ordre et progrès » se trouve dans la première philosophie de Comte. Dans la deuxième, c'est une formule tripartite. On a découvert le sentiment, donc on dira l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. L'ordre, c'est la base, mais vous pouvez aussi chercher à donner une base à l'ordre social. Si vous poursuivez cet objectif, ce que vous trouverez, vous dit Comte, c'est le contraire du matérialisme. L'ordre social se fonde sur des idées.
Ce n'est pas au lecteur de cet ouvrage que je croirai jamais devoir prouver que les idées gouvernent et bouleversent le monde. Ou en d'autres termes, que tout le mécanisme social repose finalement sur des opinions. Ils savent surtout que la grande crise politique et morale des sociétés actuelles tient, en dernière analyse, à l'anarchie intellectuelle. Notre mal le plus grave consiste, en effet, dans cette profonde divergence qui existe maintenant entre tous les esprits, relativement à toutes les maximes fondamentales, dont la fixité est la première condition d'un véritable ordre social. Tant que les intelligences individuelles n'auront pas adhéré par un assentiment unanime à un certain nombre d'idées générales capables de former une doctrine sociale commune, on ne peut se dissimuler que l'état des nations restera de toute nécessité essentiellement révolutionnaire. Malgré tous les palliatifs politiques qui pourront être adoptés, ne comportera réellement que des institutions provisoires.
Donc, le mécanisme social repose sur des opinions. L'idée est la suivante, c'est ce qu'on exprime aujourd'hui sous le terme de consensus. S'il n'y a pas de consensus dans une société, c'est la guerre. Et le désaccord peut-être même conçu sous forme de consensus. C'est-à-dire, on se sépare sans se battre, en disant, bon, voilà, on est d'accord, pour constater qu'on n'est pas d'accord. C'est un consensus. Comte dit que pour avoir une véritable association, il faut, ce qu'on a beaucoup souligné, il faut des intérêts communs. Mais il faut partager des sentiments communs et avoir des idées communes. Sans cela, il n'y a pas de société. Du moins, la société connaîtra des dysfonctionnements. Donc, il y a une base spirituelle de l'ordre social. Alors, on peut encore développer davantage cette idée de consensus. Comte l'associe à la confiance. Il y a un très beau texte de Comte sur ce sujet.
La division du travail n'est pas seulement matérielle, comme on le croit d'ordinaire, elle est aussi et surtout intellectuelle et morale. C'est-à-dire qu'elle exige, outre la soumission pratique, un certain degré correspondant de confiance réelle, soit dans la capacité, soit dans la probité, des organes spéciaux auxquels est ainsi exclusivement confiée désormais une fonction jusqu'alors inutile. universelle. Chaque jour, par une suite nécessaire de la grande subdivision actuelle du travail humain, chacun de nous fait spontanément reposer, à beaucoup d'égards, le maintien même de sa propre vie sur l'aptitude et la moralité d'une foule d'agents presque inconnus, dont l'ineptie et la perversité pourraient gravement affecter des masses souvent fort étendues.
Quotidiennement, nous faisons confiance aux gens que nous rencontrons. Je vais acheter mon pain, c'est du manger, je ne demande pas est-ce qu'il aurait mis du poison, etc. C'est là-dessus que repose la vie sociale. On verra, je crois, dans un prochain texte, que, conformément d'ailleurs à l'étymologie, qu'on dégage de cette idée de confiance l'idée d'une foi positive. Le crédit, ça va avec le credo. Dans le texte qui a été lu, vous avez peut-être remarqué que Comte fait se succéder la soumission et la confiance, qui exige, outre la soumission pratique, un certain degré correspondant de confiance réelle. La soumission, c'est l'ordre, mais il y a aussi une confiance. Ce rapport de soumission, du point de vue de mon supérieur hiérarchique, ça s'exprime en termes de pouvoir. Si la société repose sur des idées communes, quelque chose qui sera très important pour Comte, c'est qu'il faut une classe spéciale chargée d'élaborer ces idées communes. Alors ça, ce sont des aspects hautement contestables, une sorte de direction spirituelle, ce qui deviendra un pouvoir spirituel inspiré, encore une fois, du catholicisme, la séparation temporel et spirituel, le pape et l'empereur. Le problème est le suivant.
Il s'agit d'examiner les motifs principaux qui, en opposition aux préjugés actuels, nécessitent dans le nouvel état social un gouvernement moral portant sur les idées, sur les penchants, sur la conduite, soit dans l'ordre individuel, soit dans l'ordre collectif.
La réponse dira:
ni l'homme, ni l'espèce humaine ne sont destinés à consumer leur vie dans une activité stérilement raisonneuse, en dissertant continuellement sur la conduite qu'ils doivent tenir. C'est à l'action qu'est appelée essentiellement la totalité du genre humain, sauf une fraction imperceptible, principalement vouée par nature à la contemplation. Et néanmoins, toute action suppose des principes préalables de direction que les individus ou les masses n'ont ni la capacité ni le temps d'établir ou seulement de vérifier, autrement que par l'application même, dans le plus grand nombre des cas. Telle est, sous le simple rapport intellectuel, la considération fondamentale qui motive d'une manière décisive l'existence d'une classe qui, éminemment active dans l'ordre spéculatif, est constamment et exclusivement occupée à fournir à toutes les autres des règles générales de conduite dont elles ne peuvent pas plus se dispenser qu'elles ne sont aptes à les former, qui, une fois admises, leur permettent d'employer toutes leurs capacités de raisonnement à les appliquer judicieusement dans la pratique, en cédant pour cela des lumières de la classe contemplative, quand la déduction et l'interprétation présentent trop de difficultés. Cette nécessité d'une direction spirituelle se montre non moins clairement si, cessant de considérer l'homme seulement comme intelligent, on l'envisage aussi sous le rapport moral.
Ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée que la société repose sur un consensus appelle l'idée que, à l'intérieur de cette même société, une classe va se dégager et qui aura pour fonction spéciale de formuler ce consensus. C'est ce qu'il appelle le pouvoir spirituel. Et son idée, c'est que le pouvoir spirituel qui avait été confié initialement aux prêtres peut, avec le développement de la science, être confié aux savants. Alors je ne développerai pas cet aspect parce que c'est très long, c'est éminemment problématique. Je me contenterai d'en souligner deux ou trois dimensions. Ce qui va apparaître, c'est que si le savant est de cette façon l'héritier, le successeur du prêtre dans cette fonction de direction spirituelle, il y a également des différences considérables. Alors, avant de lire le texte, je voudrais vous donner la définition que Comte avait présentée très tôt, 30 ans avant de fonder une religion. La foi positive. La foi positive, dit-il, est la disposition à croire spontanément, sans démonstration préalable, au dogme proclamé par une autorité compétente. Ce qui est en effet la condition générale indispensable pour permettre l'établissement et le maintien d'une véritable communion intellectuelle et morale. Vous voyez qu'il y a un consensus, il faut des dogmes, c'est à prendre avec du pincet. Le texte suivant va préciser le rapport entre ces nouveaux membres du pouvoir spirituel que sont les savants et les masses populaires.
Il est donc prouvé par les faits les plus sensibles que le peuple est aujourd'hui spirituellement confiant et subordonné à l'égard de ses chefs scientifiques, de même qu'il l'est temporellement par rapport à ses chefs industriels, et j'ai par conséquent le droit de conclure que la confiance est organisée dans le nouveau système aussi bien que la subordination. Nous devons également observer ici que la confiance du peuple pour ses nouveaux chefs spirituels est tout à fait distincte par sa nature de celle qu'il avait dans l'ancien système pour ses chefs théologiques. Celle-ci consistait dans une soumission d'esprit tout à fait aveugle, qui exigeait dans chaque individu une abnégation absolue de sa propre raison. La confiance dans les opinions des savants a un tout autre caractère. C'est l'assentiment donné à des propositions sur des choses susceptibles de vérification, proposition admise à l'unanimité par les hommes qui ont acquis et prouvé la capacité nécessaire pour en juger. À la vérité, le fait est admis sans preuve, mais il n'est admis de cette manière que par la raison où se juge incapable de suivre les démonstrations qui établissent ces vérités. Cette confiance renferme toujours implicitement la réserve expresse du droit de contradiction. En cas de nouvelle démonstration produite, qui prouve qu'elle est mal fondée, ou de lumière suffisante acquise par le croyant pour combattre les opinions reçues, le peuple est donc loin de renoncer par là au libre exercice de sa raison. Cette confiance du peuple dans les opinions des savants est absolument du même ordre, quoique beaucoup plus étendue, que celle des savants les uns pour les autres.
Alors, je voudrais tout d'abord souligner ce qui me paraît l'intérêt considérable d'un texte comme celui-là. Le Comte est, on va dire, le seul. Demandez quel rapport entretenons-nous, peuple, c'est-à-dire citoyens, grosso modo, avec les savants, les scientifiques, les experts, la fonction sociale de la science et notre attitude à l'égard de ça. Alors Comte dit, on leur fait confiance, ce qui est vrai. Confiance, croyance, il y a aussi la crédulité. Ensuite, on retrouve ici la bipolarité, la confiance et la subordination. Autre intérêt du texte, c'est de mettre en parallèle la confiance du peuple envers les savants et la confiance du peuple envers les prêtres. Ce qu'il vous dit, c'est quand même de nature tout à fait différente. Vous voyez ? La théologie, encore, consistait dans une soumission d'esprit aveugle, abnégation de la raison. La confiance dans les opinions des savants a un tout autre caractère. C'est l'assentiment donné à des propositions sur des choses susceptibles de vérification. Et il ajoute, ensuite, le fait est admis sans preuve, mais la confiance renferme toujours la réserve expresse du droit de contradiction. Autre remarque sur ce texte, tout à l'heure je vous disais, il y a deux grands massifs dans l'œuvre de Comte, le cours, le système. Beaucoup de textes qui ont été lus appartiennent à une troisième partie, quantitativement beaucoup plus restreinte, mais qui est essentiel pour une bonne compréhension de l'œuvre de Comte. Comte, élève de Polytechnique, a eu le malheur d'être d'une promotion qui a été licenciée pour insubordination au moment de la Restauration. Il n'a donc jamais réussi à faire une carrière académique militaire et il s'est retrouvé secrétaire de Saint-Simon. La façon dont on approche la science d'un point de vue social, elle est en partie empruntée au Saint-Simon. Mais ce qui est sûr, c'est que ces textes de jeunesse, donc écrits entre 1820 et 1824 à peu près, sont tout à fait remarquables. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre que, avant de faire une philosophie des sciences, Comte voulait faire une philosophie politique. L'originalité du point de vue de Comte sur la science, elle est dès le début. Une dernière petite citation que je vous lirai moi-même parce qu'elle est très courte, sur le même sujet, Comte dit ceci, et vous allez voir, c'est quand même frappant de vérité. À quelques degrés d'instruction que parvienne jamais la masse des hommes, il est évident que la plupart des idées générales destinées à devenir usuelles ne pourront être admises par eux que de confiance et non après des démonstrations. On ne peut pas demander des démonstrations de tout, ça n'a pas de sens. Donc il faut organiser un système de confiance. Alors voilà, grosso modo, de quelle façon, partant de la société, qui a besoin d'une base spirituelle, vous êtes amené à vous tourner vers la science et les savants. Ce que je voudrais, dans le temps qui reste, c'est très brièvement vous introduire dans ce monde très particulier qui est le deuxième conte, où le thème est repris et transposé. Alors, dans un vocabulaire, donc il y a une religion, il y a le primat du sentiment. Le sentiment, c'est l'amour, l'intelligence, c'est la foi. La foi se porte sur les dogmes, et les dogmes s'adressent à l'intelligence. L'amour est lié au culte, et dans les deux cas, tout cela tourne autour de l'humanité. C'est-à-dire, il y a les dogmes pour vous enseigner l'humanité, et le culte est dirigé vers l'humanité. Comte a fait un nouveau calendrier, Gutenberg, etc. Tout le système de commémoration, la statuomanie de la Troisième République, vient en partie de Comte. Les grands hommes, ce sont les représentants éminents de l'humanité. Les dogmes de la religion, c'est les lois de la science. Comte était un visionnaire, il y avait le temple de l'humanité, le sacerdoce donnait cours là, l'enseignement relevait du pouvoir spirituel. Et ce qu'il enseignait comme dogme, c'était les mathématiques, la physique, la chimie, etc. L'humanité, c'est ce qui résume l'ensemble du dogme, parce que, au fond, la sociologie, c'est une science de l'humanité. La religion est définie par contre d'une façon tout à fait surprenante comme unité. La religion, c'est l'état de parfaite unité. Il s'appuyait pour cela sur une étymologie qui a été un peu contestée, qui renvoie à ligare, relier. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on n'admet plus. On va lire un premier texte de Comte qui risque de vous dérouter. J'essaierai de vous montrer comment, en filigrane, on peut retrouver la science base de l'ordre social. Alors, si, quand même, peut-être vous dire, dans la deuxième philosophie de Comte, on ajoute une nouvelle science qui est la morale. Avant, on s'arrêtait à la sociologie. Ça ne fait que sanctionner quelque chose qui était déjà présent dès le début. Les problèmes sociaux peuvent être tirés d'un côté en termes purement politiques et qu'on dira institutionnels ou en termes moraux. Déjà dans sa première philosophie, mais plus encore dans la seconde, ce sera tiré du côté de la morale.
Quels sont en général les offices respectifs du sentiment et de la raison dans notre principale construction, la constitution graduelle, spontanée ou systématique, de l'unité humaine, destinée à régulariser notre activité individuelle ou collective. Pendant que l'harmonie morale s'établit en subordonnant l'égoïsme à l'altruisme, la cohérence mentale repose sur la prépondérance de l'ordre extérieur. D'une part, toutes nos inclinations se rallient sous la seule affection au Fils des disciples. D'une autre part, toutes nos conceptions se coordonnent d'après un spectacle indépendant de nous. En même temps, cette économie extérieure devient la base directe de notre conduite, toujours destinée à la subir dignement ou à la modifier sagement. L'être se trouve ainsi lié, en dedans et en dehors, par l'entière convergence de ses sentiments et de ses pensées, par la puissance supérieure qui détermine ses actes. Alors, il y a vraiment religion, c'est-à-dire unité complète, tous les moteurs internes étant coordonnés entre eux et leur ensemble librement soumis à la fatalité externe. La composition même de ce mot admirable, religion, résumera désormais cette théorie générale en rappelant deux liaisons successives, de manière à faire sentir que la véritable unité consiste à lier le dedans et le relier au dehors. Telle est l'issue finale du grand dualisme positif entre l'organisme et le Dieu, plutôt entre l'homme et le monde, ou mieux encore, entre l'humanité et la Terre.
Je voudrais retenir une expression qu'il est facile de mémoriser, l'idée de la seconde philosophie de Comte, celle qui se trouve en particulier exprimée ici, c'est qu'il faut régler le dedans par le dehors. Le dedans, ce sont les sentiments subjectifs. Le dehors, chez Comte, ça marche toujours par balancement. Le dehors, c'est objectif. C'est l'ordre extérieur, grosso modo, que nous donne la science. Régler le dedans, la morale. Si vous voulez moraliser l'homme, eh bien, il faut que vous subordonniez ces sentiments qui sont désordonnés, qui sont parfois incohérents, que vous les subordonniez à un modèle extérieur qui est offert par l'ordre du monde et que la science vous fait découvrir. La science va moraliser. Je vous propose une sorte de commentaire de cette idée qui n'est pas de Comte, vous avez tout de suite remarqué au style. C'est d'Alain qui a découvert Comte relativement tardivement, mais qui sur bien des points en a retenu la leçon.
Hier soir, la grande ourse s'allongeait sur le bord de l'horizon. Cassiopée élevait ses fanaux en zigzag de l'autre côté de la colère. Vega, l'étoile bleue, brillait au sommet du ciel. Vers l'occident, Arcturus descendait. Entre les deux, on voyait la couronne et sa perle. Au levant s'étendait la longue Andromède, d'où tombaient plus au nord les étoiles de Persée, comme un collier rompu. Ces noms sont anciens, mais ces parures du ciel sont plus anciennes que les noms. Les bergers chaldéens les voyaient comme nous les voyons. En cette saison, à cette même heure, la première de la nuit, Virgile pouvait les voir sortir de la mer ou s'y plonger, comme les avait vus le pilote des noms. Quand on ramène les yeux sur cette terre, tout a changé. Mais tout change si vite, d'instant en instant, il est impossible qu'un si grand contraste ne secoue pas la pensée jusque dans son âme. Platon en fut tellement saisi. Il enseigna que les dieux nous avaient donné les étoiles pour modèles, afin que nous missions, malgré les choses qui s'écoulent, l'ordre et le repos dans nos idées. S'il parlait en poète, et s'il croyait au fond que c'est nous-mêmes qui sommes des dieux d'un instant, c'est ce qu'on ne peut pas savoir, car il avait l'art de sourire pour les nourrices et les petits-enfants, pendant qu'il parlait à des hommes. Toujours est-il qu'il exprimait là une grande et profonde idée. Car ce sont certainement les mouvements du ciel qui donnèrent aux hommes la première notion d'un ordre à chercher dans les choses. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, c'est au vrai ciel des étoiles qu'il faut suspendre nos vies, sans quoi les caprices des hommes et les cris des enfants nous étourdiraient. Là est le modèle de toute science humaine et de toute machine humaine, sagesse.
Vous voyez que, en un sens, c'est bien cette idée de l'ordre extérieur dont le prototype reste le ciel, est le modèle de toute sagesse humaine. Parfaitement utopiste. Mais c'était du moins la conviction profonde d'Auguste Comte. En contemplant cet ordre, macrocosme, si vous voulez, on découvre quelque chose qu'on va chercher à réaliser en soi-même. C'est ce qui fait que, un peu après le premier texte de Comte qui a été lu, Comte s'explique sur une sorte d'anomalie, qui est la prépondérance du cœur. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut systématiser les idées avant les sentiments. C'est encore du jargon conscient, mais vous ne pouvez pas ordonner vos sentiments, dit Comte, sans l'aide de l'intelligence. La chétive intelligence, elle a un rôle tout à fait fondamental. Alors, juste une dernière formule de cette religion positiviste. Il faut, dit Comte, lier le dedans par l'amour et le relier au dehors par la foi. Alors, pour conclure, Comte a conçu une éducation universelle, c'est-à-dire une éducation qui ne s'adressait pas seulement aux classes privilégiées et aux garçons des classes privilégiées. Comte a demandé que l'éducation soit donnée aux garçons et aux filles, d'où je viens, et que l'éducation soit donnée à tout le monde. D'où les liens avec des lieux comme celui-ci. Puisque nous finissons dans la géographie, j'aimerais vous indiquer deux lieux positivistes qui ne sont pas très éloignés d'ici. L'un se trouve rue Payen, voilà, vous avez la chapelle de l'humanité. Et sauf erreur, si vous remontez le boulevard Beaumarchais, plus ou moins à la hauteur du cirque d'hiver, vous avez sur, on ne peut pas appeler ça une place, mais sur un espace entre deux immeubles, puis des escaliers qui descendent en contrebas, il y a une statue à Clotilde de Vaux.
Merci. Voilà, la discussion est ouverte. Est-ce que d'après vous, Auguste Comte a sa place maintenant dans la société que nous vivons?
Ce qu'on a dit depuis très longtemps sur Comte, c'est que, indépendamment de l'absence de qualité de style, c'est quelqu'un dont il est très facile de se moquer, qui entre dans des détails parfaitement ridicules, mais qui, sur des points fondamentaux, a vu juste. Voilà. Et je crois qu'il sort du purgatoire, si vous voulez. Il y a un certain nombre d'idées qu'on redécouvre, de problèmes auxquels on ne peut plus échapper, qui sont chez lui. Les écrits de jeunesse de Comte se lisent relativement facilement. C'est une époque où il soignait sans doute davantage son style. Il n'a pas eu de position académique qui lui permette de développer librement son travail. Donc, il avait pris l'habitude d'écrire du premier jet et d'envoyer chez l'imprimeur. Bon, voilà, le travail du style était réduit au minimum. Vous voyez ?
Dans la fête, vous savez, à un moment, il se rend compte de ça, il parle du style, disant, là, oui, attention, mais quand même, il ne suffit pas d'avoir une pensée, il faut arriver quand même à la communiquer aux autres, quoi. Donc,
alors, il avait inventé des règles. Comte a eu un épisode de démence. Manifestement, il avait très peur des rechutes, il s'en est gardé, mais il restait des traits, disons, quelque peu pathologique. Alors, par exemple, les règles d'écriture de ces derniers ouvrages, il fallait que chaque paragraphe ait 5 phrases, que chaque phrase n'ait pas plus de 13 mots, et il y avait des anagrammes, c'est comme ça qu'il pensait améliorer son style.
Quel fut l'écho de son temps, notamment chez les littéraires, vous savez-vous, par exemple, je fais juste une petite incidente pour faire rire ici, je suis en train de lire César Birotteau. À ce moment, quand on a 65 ans, ça va changer. Dans César Birotteau, je dis pour ceux qui ont oublié, c'est un parfumeur à qui il arrive un problème financier, dans ce Paris du 19e siècle, où il est où l'argent devient roi et il y a de la science. Monsieur César Birotteau invite Vauquelin à lui écrire un petit texte sur la pommade qui fait pousser les cheveux, et au nom de la science. Et monsieur Balzac, je ne sais pas s'il avait lu Comte, mais il sait tout de suite comment la crédulité du peuple, pour ce qui est la science, ça fait des choses graves. Ça conduit droit à la publicité, puisqu'on est dans l'ordre du fric, monsieur Vauclin, et sur tous les murs de Paris, il y a Vauclin qui soutient la pommade de César Birotteau, et ça fait des choses. Donc voilà, quand je vous écoutais, je me disais, est-ce que Balzac a entendu parler de Comte ?
Écoute, non, je ne crois pas. Étrangement, Comte a été reconnu par les Anglais avant la France. Stuart Mill s'est déclaré une admiration profonde pour Comte dans les années 1842 à peu près. Bon, après, il a changé un peu d'avis. Alors que la reconnaissance de Comte en France date de 1844, c'est-à-dire d'articles de Littré dans le National. Alors à partir de là, le positivisme fait son chemin en France. Mais alors ce qui est tout à fait remarquable et qui vaut au moins jusqu'en 1914, c'est que le positivisme qui a réussi à s'implanter, à se diffuser dans la Troisième République, ce n'est pas le positivisme qu'on appelle orthodoxe religieux de Comte, c'est le positivisme des dissidents qui étaient Littré. Littré, c'est Brouillé, qui était le grand disciple de Comte, c'est Brouillé avec Comte en 1851, au moment du coup d'État du 2 décembre.
A-t-il vécu la révolution de 48 et la Deuxième République ?
La révolution de 48, enthousiaste. Oui. Comte passait donc une partie de ses loisirs à enseigner l'astronomie aux prolétaires parisiens. Donc, il sentait bien l'ambiance dans les milieux populaires en France. Et il a participé avec enthousiasme à la révolution de 48. En revanche, Comte s'est toujours déclaré républicain et a toujours été hostile au régime parlementaire. Donc en 48, quand on a une assemblée constituante, etc., ça traîne ça dans la boue, grosso modo. En sorte qu'il applaudit au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Ce que Littré se refuse à faire. Ceci étant, Comte rapidement a déchanté. Et à la fin, il traitait Napoléon du grand Mamelouk. Le grand Mamamouchi.
Que je voudrais souligner, que je trouve extrêmement d'actualité, complètement sous-jacent, c'est justement la manière dont, dans l'ordre social aujourd'hui, il y a le rôle des experts. C'est-à-dire que tous les politiques en particulier ne font appel en permanence qu'aux experts et à croire ça. Et c'est un vrai support à l'ordre social d'aujourd'hui, et on ne parle jamais de Comte, mais en fait, c'est complètement sous-jacent.
En fait, Condorcet déjà s'était posé la question de cette confiance à donner, parce qu'il y a une sorte de contradiction entre le désir de démocratie et tout ce qui se passe à la Révolution, où se trouve Condorcet, l'égalité, n'est-ce pas ? Et puis, tout d'un coup, l'inégalité qui vient du fait que la cité scientifique n'est pas démocrate. Elle se ferme. Donc, Condorcet a réfléchi à ça et explique, a aussi des explications un peu de ce qui doit se faire par rapport à ce problème qui est un problème.
Dans les textes que vous avez lus, il y a une sorte de synthèse de la société souveraine. Il y a le peuple qui se soumet d'un côté aux industriels et de l'autre aux savants. Dans le système de coup, où est le politique ? Qui gouverne l'ordre social ? Où se place le gouvernement dans un système de...
Le fondement de la politique positive, c'est cette idée que la véritable division des pouvoirs, ce n'est pas celle que nous a appris Montesquieu, exécutif, législatif, judiciaire, c'est temporel et spirituel. La raison n'a que des lumières, tout commandement réel exige de la force. C'était le premier texte. Ce qui veut dire que le pouvoir, c'est le pouvoir temporel. Le pouvoir spirituel est purement modificateur. C'est-à-dire il donne des conseils, il ne peut pas imposer sa volonté. Le dernier mot reste toujours au pouvoir temporel. Ça c'est le premier point, d'accord ? Ce que dit Comte, encore une fois dans les textes de Genèse, c'est qu'inversement, on ne gouverne temporellement que ce qu'on ne peut pas gouverner spirituellement. C'est-à-dire le recours à la force, une solution toujours coûteuse, que dans la mesure du possible, on essaye de régler les problèmes sans recourir à la force.
Je change de point de vue en reprenant cette fois le pouvoir de l'entreprise, qui est assez, assez semblable, en fin de compte, à l'ordre social, général, politique. Dans l'entreprise, vous avez toute une série d'experts auxquels on fait appel, qui servent justement d'alibi pour prendre des décisions. Oui. Donc à un moment donné, vous avez même des systèmes d'aide à la décision, vous avez des experts qu'on va chercher pour prendre des décisions qui sont en fait prises à l'avance. Et on a simplement besoin de cette caution du scientifique, de l'expert, on n'en reste toujours pas pour ça. Donc le pouvoir, c'est très net. L'expert, le scientifique, etc., à un moment donné, sert rapidement d'alibi à celui qui veut conserver le pouvoir, qui n'a pas obligatoirement ça, et qui va s'appuyer sur cette classe de savants qui se fait utiliser par les gens qui ont le pouvoir, effectivement, qui exercent le pouvoir, effectivement.
Alors, plusieurs choses à dire, sans oublier votre question à laquelle la réponse n'est pas terminée. Je vais dans votre sens. Dans bien des cas, les experts ne sont appelés que pour entériner des décisions déjà prises et permettre de se décharger des responsabilités. Ça vaut dans l'entreprise, mais les experts convoqués par les hommes politiques, c'est la même chose. Hein. C'est comme quand on vous dit, c'est l'ordinateur qui s'est trompé. Alors, il y a un point que je n'ai pas dit, c'est que Comte, très vite, a été déçu par le monde académique, le monde des savants. En sorte que le pouvoir spirituel, il a voulu le confier aux femmes, dans la deuxième philosophie, et également aux prolétaires. Maintenant, qui exerce le pouvoir dans la société? Le véritable pouvoir, c'est le pouvoir temporel. Alors ça, c'est le côté saint-simonien de Comte, va être confié aux industriels. Plus particulièrement aux banquiers, parce que les banquiers représentent la crème du monde industriel.
Voilà Balzac.
Voilà Balzac et bien d'autres.
Et bien d'autres. Ça, voilà. Mais je veux dire que ça n'a pas changé au 20e. C'est simplement le pouvoir qui a été déplacé et les moyens sont toujours les mêmes.
D'accord, avec lui. Alors, pouvoir temporel par les financiers, quelques experts.
L'admiration de Comte pour le catholicisme se double d'une méfiance pour le protestantisme. Ce sont des sujets complexes, il faut se garder de la caricature. Et enfin, c'est quelque chose pour Comte, purement transitoire, dissolvant. Ce que dit Comte, c'est que, par exemple, le dogme de la liberté de conscience n'avait d'autre raison d'être que de détruire le monde théologique. C'était une arme de guerre. Et ce que Comte dit, vous ne pouvez rien reconstruire avec des armes de guerre. Donc vous ne pouvez pas, c'est quelque chose d'évidemment contestable, mais vous ne pouvez pas fonder une société sur le principe de la liberté de conscience, dit Comte. D'où son goût pour la dictature. Le gouvernement temporel, chez Comte, s'appelle dictature. Alors peut-être avec un sens particulier de la dictature. Ça, c'est des points un peu précis. Comte fait du mot dictature un usage très particulier. Le modèle, ce n'est pas l'institution romaine, la suspension des lois, etc. C'est l'usurpation du pouvoir spirituel par le pouvoir temporel. Il y a dictature quand il n'y a plus de distinction pouvoir temporel spirituel. Donc les temps modernes, grosso modo. Bon, après, tu peux moduler la force du gouvernement. Et ce qui est sûr également, c'est que Comte était hostile au régime parlementaire. Grosso modo, le parlementaire, c'est la parlotte. L'égalité, ça le même à la lettre. Là encore, la question de l'égalité. Il n'y a pas de société sans hiérarchie. Juste un exemple de Comte. Il dit que, au Moyen-Âge, par exemple, Bernard de Clairvaux, oui, Saint Bernard, était infiniment supérieur au pape. Ceci étant, dans l'ordre social du Moyen-Âge, Bernard de Clairvaux s'est toujours reconnu subordonné au pape. Il y a différentes hiérarchies. Il y a la hiérarchie temporelle et la hiérarchie spirituelle.
Est-ce que c'est le premier conte ou le deuxième conte qui a intéressé tellement la
latine,
là?
Oui. Sa force tient au prestige de la France. Il y a eu une immigration française non négligeable en Amérique latine au XIXe siècle. L'influence de Comte, elle s'est exercée avant tout au Brésil, à Montevideo, au Uruguay, en Argentine, au Chili, au Mexique également. Elle s'est exercée par des canaux divers. Vous avez parlé des ingénieurs. Au Brésil, le noyau des positivistes se recrutait dans l'école polytechnique brésilienne. Mais il ne faut pas oublier que ces gens qui sortent de cette école sont des militaires, mais également des ingénieurs. Il y en a un qui, colonel, allait poser le télégraphe dans l'Amazonie. Alors on dit le colonel machin. Il ne faut pas oublier que c'est en tant qu'ingénieur qu'il posait le télégraphe. Alors ça, c'est un canal important, notamment au Brésil, semble-t-il, dans la première génération. Dans d'autres cas, c'était les médecins. Le positivisme en France s'est diffusé chez les médecins. Et ça, en particulier par l'intermédiaire de Littré, qui était lui-même médecin, auteur d'un dictionnaire de médecine, etc. Et puis enfin, le troisième canal, c'était l'éducation. Par exemple, c'était le cas au Mexique. Alors là, c'est lié un peu au scientisme, avec des guillemets. Il faut développer la science, il faut développer les lumières, il faut développer l'éducation.